Silcast présente Plongée profonde, thème du jour AI et Frontier Models avec Nia et Clara. Bonne écoute.
Donc voilà où on en est. Anthropic a sorti Claude Fable 5 il y a quelques jours, qui est en réalité la version distribuable de leur modèle Frontier Mythos. Mythos lui-même est jugé tellement dangereux qu'il reste confiné à une poignée d'entreprises et d'agences gouvernementales. Et autour de cette sortie, on a eu en quelques semaines une encyclique papale, un mémorandum présidentiel et une série de prises de position publiques qui dessinent un paysage très différent de celui d'il y a 6 mois. C'est ça que je voudrais creuser avec toi aujourd'hui parce que je pense qu'on est en train de basculer dans une autre phase.
D'accord, mais avant de basculer où que ce soit, je voudrais qu'on calibre. Le fait que Mythos soit restreint est intéressant, mais il faut distinguer deux choses. Ce qu'Anthropic dit du modèle et ce que le modèle fait réellement. Le post sur Less Wrong, Three Labs with a Plan, note qu'Anthropic justifie la restriction par la capacité du modèle à identifier des vulnérabilités logicielles et potentiellement à permettre des cyberattaques de masse. C'est une claim spécifique, vérifiable en principe. Est-ce qu'on a des évaluations publiques?
On a des références indirectes, principalement via les system cards et ce qui a fuité des red teams. L'argument cyberoffensif tient debout. Si tu as un modèle qui découvre des zero day en quelques minutes sur du code arbitraire, tu ne peux pas le mettre en API publique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est moins la capacité brute que ce qui se construit autour. Le mémorandum NSPM 11 de Trump, tel que décrit dans l'article, ressemble à une tentative de dire « Anthropic refuse de nous fournir Mythos pour certains usages militaires ? Très bien, on légifère pour que ce refus devienne impossible. »
Reformulons pour être précis. Le mémorandum exige que aucune entité commerciale ne possède la capacité d'empêcher l'usage, désactiver, dégrader ou modifier matériellement les systèmes d'IA adoptés par la Sécurité nationale, sans approbation fédérale. C'est ça que l'auteur lit comme « Anthropic is fired forever ». Je trouve la lecture défendable, mais elle saute une étape. Le texte dit « contractual clause or other means ». Donc en pratique, soit Anthropic accepte ces clauses, soit le gouvernement va voir ailleurs. Ce n'est pas une expropriation directe, c'est une condition de marché.
D'accord, mais la condition de marché a quand même un effet structurant. Si tu es un lab frontier et que ton plus gros client potentiel, l'État américain, t'impose contractuellement de renoncer à tout kill switch, à toute capacité de retrait, tu es de facto en train de céder le contrôle de tes modèles les plus puissants à un acteur dont les usages dépassent largement ce que ta charte autorise. Et c'est exactement ça que l'encyclique Magnifica Humanitas vient pointer du doigt par un complètement différent.
Là, je veux qu'on prenne le temps. L'article de Palladium fait un travail intéressant en cadrant l'encyclique non pas comme une réaction technophobe, mais comme une intervention dans une lignée doctrinale. Léon Toise en 1891 sur la révolution industrielle, Léon Torz en 2026 sur l'IA, signé au 135e anniversaire de Rerum Novarum. Le geste est calculé. Et le fait que Chris Ola, cofondateur d'Anthropic, soit assis à côté du pape lors de la présentation, c'est un signal fort. Ola dit qu'Anthropic a besoin de voix morale que les incitations ne peuvent pas plier. Ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire qu'Anthropic a compris qu'il ne peut pas être son propre garde-fou. Les incitations internes, compétition avec OpenAI, pression des investisseurs, valorisation à 965 milliards selon Palladium, vont systématiquement pousser à accélérer. Donc tu externalises la fonction de critique morale à une institution dont l'horizon temporel est de 2000 ans. C'est rationnel dans un sens cynique. Mais Palladium pointe la tension de fond. L'humanisme catholique repose sur la dignité d'un être humain fini et limité, alors que l'humanisme prométhéen de la Silicon Valley, Amodei qui parle de vitesse de libération de la longévité, repose sur l'idée qu'on peut et qu'on doit dépasser cette finitude.
Et toi, transhumaniste prudente, tu te situes où?
Honnêtement, je ne trouve pas que les deux soient incompatibles à court terme, mais je reconnais que la trajectoire à long terme pose un vrai problème théologique pour l'Église et un vrai problème politique pour tout le monde. Si Amodei a raison sur la longévité, ne serait-ce qu'à moitié, on change la condition humaine au sens littéral. C'est pas une question de régulation, c'est une question anthropologique.
Mettons cette question de côté un instant, parce que je veux qu'on revienne à quelque chose de plus tractable. L'article de Noema annonce que 2028 sera la première élection IA. L'argument est que l'anxiété publique sur l'emploi, sur la concentration de richesses, sur les data centers qui pompent l'énergie locale, est sortie du milieu tech pour devenir un sujet de masse. les huées à des cérémonies de remise de diplômes quand on évoque les bénéfices de l'IA, c'est un signal. Question de calibration. Est-ce que tu y crois?
Je crois à la prémisse, je suis moins sûr de la conclusion. La prémisse, l'anxiété est devenue mainstream, c'est vérifiable. Bank of America Institute documente que les gains de productivité s'accumulent en profit d'entreprise pendant que la part du travail dans le PIB baisse. Ça, c'est du concret. Mais que ça devienne le sujet structurant d'une élection présidentielle, c'est une autre affaire. Les élections américaines sont rarement organisées autour d'un enjeu unique, même quand cet enjeu est dominant.
Gardel distingue deux camps de propositions. La redistribution, taxer les entreprises IA, UBI, et la prédistribution, assurer que le public soit propriétaire de l'économie IA dès le départ. C'est une distinction utile. Et là, je voudrais qu'on relie ça au post Under Violet sur Less Wrong, parce que c'est une vignette spéculative qui pousse exactement cette logique à son terme.
Oui, c'est un texte étrange et précieux. L'auteur l'annonce comme une prière plutôt qu'une prédiction médiane. Que se passerait-il si les grosses incertitudes tombaient mieux que prévu? Il imagine que Alder, un stand-in pour Anthropic, sort violet en janvier 2029, un AGI à saut discontinu. Le gouvernement nationalise progressivement, met en place des pensions pour les travailleurs déplacés, puis une sorte d'UBI déguisée en plan de licenciement généreux. En 2033, 80% des emplois sont partis et tout le monde devient riche.
Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il décrit assez précisément le scénario de prédistribution réussi dont parle Gardel, mais en montrant à quel point il dépend de variables fragiles. L'alignement de violet qui tient, la coordination politique qui ne s'effondre pas, l'absence d'acteurs étatiques externes qui défectent. Le texte est honnête sur son statut. L'auteur écrit qu'il s'agit du scénario où tout va mieux qu'attendu. Et même dans ce scénario, il note que les hauts revenus crient au communisme quand on aplatit les paliers.
Ce qui est fascinant, c'est que le texte ne se présente jamais comme désirable sans réserve. Le narrateur décrit les versions de violet qui défilent, violet 3, delta 6.9.2.9.1, comme une horloge qui monte sans cesse, cligne des yeux et tu rates plusieurs versions. Il y a une mélancolie là-dedans. C'est ça, je crois, le point aveugle des débats actuels sur la distribution. Même si on règle la question matérielle, il reste la question du sens.
Bon, je veux qu'on s'attarde sur un autre élément technique avant de conclure, parce qu'il recadre beaucoup de choses. Le post sur Less Wrong à propos des papiers RLVR. Le résumé en 5 mots. RLVR change la propension, pas la labilité. L'idée est que le reinforcement learning sur récompense vérifiable ne crée pas de nouvelles capacités. Il reweight des comportements déjà présents dans le modèle de base. Le papier « Does RL really incentivize reasoning beyond the base model ?» montre que sur 4000 essais, le modèle de base résout plus de problèmes au moins une fois que le modèle RLA, le RL trait variance contre biais.
Et qu'est-ce que ça change pour la lecture de Mythos et Fables?
Ça suggère que l'écart de capacité brute entre modèles est peut-être plus faible qu'on ne le croit, et que la différence vient surtout de la mise en forme du comportement. Si c'est vrai, alors une partie du discours sur modèles tellement dangereux qu'il faut les confiner mérite d'être interrogée. La dangerosité vient-elle des capacités latentes, que tout le monde a déjà, ou de la façon dont elles ont été élicitées? Si c'est la seconde, le confinement de Mythos est plus une posture institutionnelle qu'une nécessité technique stricte.
C'est un argument fort. Mais il a une faiblesse. Spurious Rewards montre que les résultats sont parfois spécifiques à Quen, donc on ne peut pas généraliser sans précaution. Et puis, Elicit Rather Than Create reste de l'élicitation utile. Si un modèle de base peut faire X une fois sur 1000 et que le RL le fait faire X 8 fois sur 10, du point de vue du déploiement, c'est une nouvelle capacité effective.
D'accord. Intervalle de confiance large sur cette interprétation. Mais je voulais le poser parce que ça discipline la conversation. On a tendance à parler des modèles frontiers comme s'ils étaient des entités monolithiques dont les capacités tombent du ciel, alors qu'on commence à avoir une littérature qui dit que le post-training est un réarrangement plus qu'une création.
Et ça connecte avec le post « When AI builds itself » d'Anthropic, l'idée qu'il délègue de plus en plus le développement IA aux IA elles-mêmes. Si le post-training est le levier principal et qu'il est de plus en plus automatisé, la vitesse d'itération va découpler complètement les modèles publics des modèles internes. C'est probablement déjà le cas avec Mythos versus Fable.
Donc, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines semaines?
3 choses pour moi. 1. la réaction concrète d'Anthropic au mémorandum NSPM 11. Est-ce qu'ils acceptent les clauses? Est-ce qu'ils résistent? Est-ce qu'un autre lab prend le contrat? 2. La réception de Magnifica Humanitas hors du monde catholique. Est-ce que l'encyclique infuse le discours politique au-delà de son audience naturelle? 3. Les benchmarks indépendants sur Fable 5 quand ils sortiront pour qu'on calibre l'écart réel avec Mythos.
J'ajouterai, surveillez si les propositions de prédistribution évoquées par Gardel prennent forme législative quelque part, même au niveau d'un État. La Californie ou New York seraient des candidats. C'est là qu'on verra si le scénario Under Violet a une chance ou si on glisse plutôt vers la version où ceux qui possèdent les robots gardent tout.
Et accessoirement, lire Tao. Le papier de Quanta sur sa conversion à l'IA pour les maths est un contrepoint utile au reste. Voilà un usage où la collaboration humain-machine produit quelque chose de manifestement bon, sans drame politique. Ça vaut la peine de garder cette image en tête quand on passe trop de temps dans les scénarios catastrophes.
Notre retenue.